Nous allons consacrer ce trimestre à un parcours de l'œuvre d'André Breton. Je dis bien un parcours parce que l'œuvre de Breton présente des difficultés d'accès tout à fait particulières. Et je voudrais commencer par expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'il est si difficile aujourd'hui de parler d'André Breton. J'ai dit à quelqu'un dans un interview qui a paru dans je ne sais plus quelle revue que Breton était le plus méconnu des grands écrivains du XXe siècle. Et on m'a souvent demandé de m'expliquer à ce sujet et je voudrais par conséquent commencer par m'expliquer un peu sur cette formule. Les autres écrivains contemporains de Breton, les autres grands écrivains contemporains de Breton, nous sont aujourd'hui de plus en plus accessibles, que ce soit Artaud, Bataille, Tzara même. On est en train, et même dans certains cas, on achève de publier leurs œuvres complètes avec le plus grand soin. Ce qui fait que, d'un point de vue universitaire, ce sont des écrivains qui deviennent très accessibles. Au contraire, ce n'est pas du tout le cas en ce qui concerne Breton. Et il y a à cela certainement des raisons anecdotiques, mais il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin et sur quoi il importe de s'interroger dès le début d'un travail à son sujet. La difficulté d'approche de l'œuvre de Breton aujourd'hui vient de la liaison particulière qu'elle a avec l'histoire de son temps. Le mouvement surréaliste est certainement le mouvement artistique et littéraire le plus important d'entre les deux guerres, non seulement en France, mais on peut dire dans l'ensemble du monde occidental. Et c'est cette importance même qui fait que celui qui en a été, on peut dire, le ciment, ce qui ne veut pas du tout dire forcément celui à qui l'on doit les œuvres les plus réussies, c'est tout à fait autre chose, mais celui qui en a été le ciment et donc l'incarnation est quelqu'un dont on va avoir beaucoup de difficultés à se débarrasser. Nous avons déjà vu plusieurs fois au cours de ces cours le problème que rencontrent certains écrivains ou l'œuvre de certains écrivains, notamment après la mort de celui qui les soutient. C'est ce qu'on appelle le purgatoire de ces écrivains. Et nous avons vu en particulier cela se produire à propos de l'œuvre de Victor Hugo. Victor Hugo, au XIXe siècle, est un écrivain extraordinairement encombrant. Il a une place énorme, non seulement dans la littérature, mais dans la politique de la France. Il a réussi à se faire considérer par la France du Second Empire comme le contrepoids du mauvais empereur, du Napoléon le Petit, qui est à Paris. Littérairement, il se déploie, on peut dire, absolument dans toutes les directions, dans tous les genres, dans tous les domaines. Les écrivains sont éperdus d'admiration pour lui. Il suffit pour s'en rendre compte de lire certains textes de l'un de ceux que l'on considérait dans la première moitié du XXe siècle comme l'un de ses critiques les plus acharnés. Je veux parler de Baudelaire. Vous n'avez qu'à vous souvenir d'abord de l'extraordinaire essai de Baudelaire sur Hugo pour l'anthologie des poètes d'Eugène Crépet, et d'autre part des lettres de supplication filiale de Baudelaire à Hugo pour lui demander de faire quelque chose pour son Théophile Gautier. Mais si les écrivains l'admirent énormément, les écrivains ont besoin absolument de creuser une place pour eux à côté de cette montagne. Ils ont l'impression qu'ils ne pourront se faire entendre que dans la mesure où se taira un peu cette énorme voix. Et c'est pourquoi pendant toute la première moitié du XXe siècle, on peut dire, une sorte de tabou est descendu sur l'œuvre de Hugo, et qui s'exprime admirablement par la boutade d'André Gide, n'est-ce pas, à qui l'on demandait qui est le plus grand poète français, et qui répondait « Victor Hugo, hélas ». Eh bien, il se passe quelque chose du même genre en ce qui concerne, non pas Breton, mais en ce qui concerne le surréalisme. Les peintres les plus célèbres d'aujourd'hui, les vieux peintres les plus célèbres d'aujourd'hui, sont tous passés à un moment ou à un autre par le surréalisme. Et on peut dire, ils en sont tous à un moment ou à un autre plus ou moins sortis. Ils ont eu besoin, en effet, après avoir beaucoup profité de l'extraordinaire excitation intellectuelle que leur procurait le groupe, ils ont eu besoin de prendre un peu de recul, un peu de retraite, de prendre un peu de silence. Or, cela n'a pas été facile du tout. L'histoire du groupe surréaliste est ainsi jalonnée de brouilles qui ont été vécues d'une façon extraordinairement passionnée. Or, aujourd'hui où nous parlons, le souvenir de ces brouilles, le souvenir de ces blessures est bien loin d'être éteint. Lorsque l'on parle encore aujourd'hui à ceux qui ont vécu l'aventure surréaliste, non pas ceux des toutes dernières périodes, bien sûr, mais ceux qui ont vécu l'aventure surréaliste d'avant la guerre, il y a, chez la plupart, une espèce de colère amoureuse qui remonte tout de suite. C'est quelque chose qui est encore tellement brûlant que l'on n'arrive pas à en parler. Or, la plupart des autres surréalistes ont pu se détacher à un moment ou à un autre du groupe surréaliste. Mais Breton, lui, ne s'est jamais détaché du groupe surréaliste, puisque très rapidement il est apparu que ce qui faisait qu'il y avait un groupe surréaliste, c'était lui. La première de ses qualités, disons, son génie principal a été de réussir à faire vivre en bonne intelligence des personnalités aussi différentes que celles de Picasso, Max Ernst, Éluard, etc., etc. De les faire vivre en bonne intelligence, évidemment, pendant quelques années, au bout d'un certain temps, tel ou tel est parti. Et est parti avec colère, est parti avec furie. Alors, c'est l'importance même du mouvement surréaliste qui fait qu'il y a, depuis la mort de Breton, on peut dire, puisque le groupe surréaliste, même s'il se survit quelque peu, eh bien, le groupe surréaliste proprement dit cesse avec la mort de Breton, eh bien, depuis cette mort de Breton, il y a encore ce problème de l'encombrement considérable du groupe surréaliste. Lorsque des critiques nous parlent de grands écrivains d'entre les deux guerres, que ce soit Artaud, Bataille, Éluard, même Aragon, il y a toujours un moment où ils arrivent à nous expliquer que, à telle date, cet écrivain se libère du groupe surréaliste. Il commence par nous dire qu'il a été une des forces agissantes principales du groupe surréaliste. Et que, tant qu'il a été là, le groupe surréaliste, c'était formidable. Et puis, il y a un moment où il se brouille, heureusement pour lui, avec le groupe surréaliste. Et à partir de ce moment-là, c'est l'écrivain individuel qui devient intéressant, que ce soit Bataille, après le second manifeste du surréalisme, que ce soit Artaud, que ce soit Aragon, etc., que ce soit Éluard, alors là, très tard, disons à la fin de la guerre, à la fin de la dernière guerre. Donc, chacun de ces écrivains apporte sa contribution et puis ensuite développe son originalité, dit-on, à partir du moment où il réussit à se délivrer de cette chapelle. Et il n'y a pas de doute, cela est tout à fait exact à partir du moment où chacune de ces individualités, que ce soit les peintres ou les écrivains, quittent le groupe, si original qu'il ait pu être auparavant, il s'enfonce dans une originalité supérieure. Tant que tous ces écrivains ou tous ces peintres ont fait partie du groupe surréaliste, ils ont en particulier participé aux œuvres collectives. C'est-à-dire qu'ils ont participé aux expositions du groupe, ils ont collaboré aux revues du groupe et surtout, ils ont signé les textes collectifs du groupe, les manifestes dont un certain nombre ont été rédigés par Breton, les plus importants, mais pas tous. Cette extraordinaire activité commune forçait ces gens si divers, évidemment, à faire des œuvres qui, à certains moments, étaient très proches les unes des autres. Et à partir du moment où ils quittent le groupe, eh bien, ces individus vont pouvoir faire des choses de plus en plus différentes les unes des autres. Breton, lui, ne peut pas, si vous voulez, acquérir cette individualité puisqu'il est d'abord et avant tout le ciment qui est entre les autres. Et il a besoin, pour continuer, il a besoin à partir du moment où un certain nombre de membres du groupe surréaliste partent, il a besoin de les remplacer par d'autres plus jeunes. Et cela a à peu près marché jusqu'à, disons, quelques années avant sa mort. Et le fait que ces grands écrivains ou ces grands peintres, à partir d'un certain moment, se détachent du groupe et se comportent comme individus, c'est aussi quelque chose qui satisfait, si vous voulez, nos habitudes de critique artistique ou littéraire. C'est quelque chose qui satisfait nos habitudes de critique littéraire. Parce que nous avons de plus en plus pris l'habitude de considérer les œuvres littéraires comme les œuvres d'individus. Si une réaction s'opère aujourd'hui, depuis quelques dizaines d'années, et qui nous permet d'étudier les œuvres comme moments à l'intérieur d'un fonctionnement social, eh bien, ce développement récent de la critique se heurte à quantité d'habitudes et à tout un vocabulaire. C'est-à-dire que la critique, même celle qui se croit le plus d'avant-garde, préfère de beaucoup considérer les écrivains dans leur individualité. Or, Breton, dans la littérature d'entre les deux guerres, est certainement de tous ces écrivains celui qui pose de la façon la plus aiguë ce problème de la relation entre ce qu'on appelle la création littéraire, la poésie et l'individualité. Il est très facile de considérer l'œuvre d'Éluard comme l'expression, disons selon la critique romantique classique, il est très facile de considérer l'œuvre d'Éluard comme l'expression d'une personnalité. C'est facile aussi en ce qui concerne l'œuvre d'Artaud ou de Bataille. Et c'est d'autant plus facile pour eux qu'ils se présentent comme des individualités révoltées. Par contre, en ce qui concerne l'œuvre de Breton, s'il y a chez lui une originalité et une révolte évidente, la liaison qu'il a, l'étroitesse de la liaison qu'il a avec le groupe surréaliste, fait que il est extrêmement difficile de considérer son œuvre comme une œuvre individuelle. Certes, la personnalité individuelle de Breton s'exprime à l'intérieur ou à travers son œuvre autant que celle d'Élevard. Mais la relation à autrui, les problèmes, si vous voulez, d'opinion publique à l'intérieur du groupe ont une telle importance qu'il est indispensable, qu'on ne peut pas s'empêcher à certains moments, qu'on est obligé d'admettre que l'œuvre de Breton est une œuvre collective dont il a été le pilote, si vous voulez, le conducteur. Et ceci pose un problème que l'on aborde théoriquement dans les problèmes dans les études sur la contemporaine sur la littérature, ce problème de la paternité collective de l'œuvre, mais que l'on déteste aborder pratiquement. Or, l'œuvre de Breton nous oblige à aborder cette question de front. Elle nous oblige à l'aborder d'abord à cause de la liaison étroite de l'œuvre, de toutes les œuvres de Breton avec l'histoire, la vie du groupe surréaliste et donc la vie de la France et de l'Europe contemporaine, étant donné que le mouvement surréaliste n'est pas seulement un mouvement esthétique, mais que c'est un mouvement politique et moral. Et cette liaison étroite se manifeste en particulier par l'importance des œuvres à auteur pluriel, des œuvres qui sont signées de plusieurs noms. Certaines des œuvres les plus importantes de Breton sont des œuvres qu'il a signées avec d'autres. Et ici, la critique habituelle est complètement perdue. Parmi les œuvres de Breton, il y en a deux des plus importantes. Il y en a d'autres, je ne veux pas faire une liste intégrale, mais deux des œuvres les plus importantes, deux des œuvres qui ont eu le plus grand retentissement, sont des œuvres qui ont deux noms d'auteurs, qui sont signées de deux noms. La première, celle qui a toujours été considérée par les surréalistes et avant tout par Breton lui-même comme la naissance du surréalisme, s'appelle les champs magnétiques, champs, CHAMPS, les champs magnétiques, et elle a été signée par André Breton et Philippe Soupeau. Et l'autre, dont nous aurons à parler aussi d'un peu près, c'est l'Immaculée Conception, qui est signée d'André Breton et Paul Élevard. Eh bien, des œuvres ainsi à deux noms d'auteur sont des œuvres qui dérangent beaucoup, non seulement le critique, mais avant lui, disons, celui qui travaille pour que le critique universitaire puisse travailler à son tour, cela dérange beaucoup l'éditeur. Cela dérange l'éditeur d'œuvres complètes. En effet, dans la bibliothèque de la Pléiade, où va-t-on ranger l'Immaculée Conception? Eh bien, je vous donne tout de suite la réponse. Il y a les œuvres complètes d'Éluard dans la bibliothèque de la Pléiade, et il y a donc dans la bibliothèque de la Pléiade, à l'intérieur des œuvres d'Éluard, l'Immaculée Conception. Mais le jour où on publiera les œuvres complètes de Breton, ce qui finira bien par arriver un jour, dans la bibliothèque de la Pléiade, que deviendra l'Immaculée Conception ? Est-ce qu'on arrivera à ce scandale qui ne s'est jamais produit pour aucun des volumes de cette auguste maison ? Est-ce qu'on arrivera à ce scandale que la même œuvre va se trouver dans deux tomes différents de la bibliothèque de la Pléiade ? Eh bien, en ce qui concerne Éluard, il est très facile de considérer, comme disent tous les critiques, et en particulier ceux qui ont fait cette édition, que Éluard est fondamentalement un poète lyrique, c'est-à-dire un poète qui exprime ses sentiments, que ce soit ses sentiments amoureux d'abord ou ses sentiments patriotiques ensuite. Que le surréalisme pour lui a toujours été quelque chose de marginal, et que par conséquent, les œuvres en collaboration pour Éluard, c'est quelque chose donc en quoi il a excellé. Et évidemment, ce qui est merveilleux, c'est de trouver ce qu'il y a d'Éluard dans l'Immaculée Conception, ce qui n'est pas facile, mais que c'est quelque chose qui n'a pas tellement d'importance. On pourrait par conséquent très bien imaginer des œuvres complètes d'Éluard dans lesquelles il n'y aurait pas l'Immaculée Conception. Par contre, il est impossible d'imaginer des œuvres complètes de Breton dans lesquelles il n'y aurait pas l'Immaculée Conception. Et nous avons quelque chose qui est bien plus grave encore, ce sont ces textes signés par tous les membres participants au groupe, faisant partie du groupe à telle ou telle époque, et ce sont les manifestes. Certains des textes les plus célèbres de Breton, certains des textes qui ont eu le plus d'influence et qui par conséquent ont été le plus omis par certains même de ceux qui en avaient le plus profité, eh bien, les manifestes du surréalisme, en particulier, rédigés par Breton, ont été signés par tous les membres du groupe. Il n'y a pas là deux auteurs, il y a là 20 ou 30 signatures. Et bien sûr, nous savons que cela a été rédigé par Breton. Mais on ne peut pas dire que cela ait été rédigé par Breton seul. Cela a été rédigé par Breton après d'innombrables séances de café, et cela a été signé après d'innombrables discussions, après le vote d'innombrables amendements. Et certes, si le président de cette chambre, dans laquelle on buvait beaucoup de demi et de ricard, eh bien, si le président de cette chambre avait une immense autorité, et a eu de plus en plus d'autorité à mesure que les années sont venues, il n'empêche qu'il y avait d'autres ténors et qui ont eu leur mot à dire et qui n'ont pas manqué de le dire. Et par conséquent, de telles œuvres, les manifestes, sont des œuvres collectives qui sont pour lesquelles on peut dire que Breton a servi de secrétaire. Cette idée de secrétaire, et d'ailleurs, cette idée du rôle de l'écrivain comme secrétaire, de son propre rôle comme secrétaire, est d'ailleurs quelque chose d'absolument fondamental dans la pensée de Breton. En effet, être secrétaire du groupe surréaliste en rédigeant les manifestes, au fond, c'est la même chose pour lui qu'être le secrétaire de ce qu'il appelle la dictée automatique lorsqu'il rédige les champs magnétiques ou lorsqu'il rédige poissons solubles. Alors, nous nous trouvons donc devant une très grande difficulté. C'est que le moyen le plus simple, au fond, d'aborder l'œuvre de Breton, c'est de l'aborder par l'intermédiaire de l'histoire du surréalisme. Et on peut dire que dans bien des cas, l'étude de Breton est masquée par l'étude du surréalisme. Il y a maintenant de très nombreuses histoires du surréalisme. Et ceci d'autant plus que le surréalisme a joué un rôle absolument décisif dans l'histoire de la peinture, et par conséquent, nous trouvons de superbes volumes dans lesquels nous avons de magnifiques reproductions qui sont très très agréables à consulter. Nous avons donc une documentation considérable sur le surréalisme et surtout sur la peinture surréaliste. Et il y a une très belle thèse de Marguerite Bonnet sur la jeunesse de Breton. Breton jusqu'au moment où commence le surréalisme. Un peu comme si, à partir du moment où le surréalisme commence, la vie de Breton fondait, était entièrement prise par la vie de cette entité collective qu'est le groupe surréaliste. Alors, évidemment, il y aurait cette tendance d'étudier le surréalisme en bloc. Mais étudier le surréalisme en bloc, c'est une œuvre qui dépasse très très largement mes moyens pendant un trimestre. Parce que étudier le surréalisme en bloc, cela implique d'étudier non seulement les écrits de Breton, mais aussi les écrits individuellement signés par tous ceux qui faisaient partie du groupe surréaliste. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive jusqu'à la fin de la vie de Breton, cela fait des centaines d'écrivains et des œuvres absolument considérables. Alors, il est impossible, par conséquent, pour nous de faire ici une histoire du groupe surréaliste. Nous serons obligés d'évoquer l'histoire du groupe surréaliste, certains événements importants de l'histoire du groupe surréaliste, mais il ne sera pas question d'étudier en elles-mêmes, les œuvres des peintres surréalistes ou les poèmes d'Éluard pendant qu'il était surréaliste ou les romans de Crevel pendant l'époque surréaliste. Il n'en est pas question. Nous n'étudierons donc que les œuvres de Breton. Et en étudiant les œuvres de Breton, nous chercherons naturellement à voir comment s'exprime la personnalité de Breton, quelle est l'originalité de Breton, quels sont les thèmes de Breton, etc. Mais il sera impossible, en ce qui concerne Breton, de s'en tenir à une critique, je dirais, de simple expressivité. C'est-à-dire que il sera toujours obligatoire de voir l'œuvre de Breton comme la réponse à un certain milieu, comme quelque chose qui se passe à l'intérieur d'un certain milieu. La personnalité de Breton, par conséquent, nous apparaîtra comme une personnalité particulièrement complexe. Si vous voulez, la psychanalyse distingue à l'intérieur d'un sujet, d'un individu s'exprimant, quel qu'il soit, trois instances, trois régions principales de la personnalité. Autour de ce que l'individu connaît de lui-même, de ce dont il a conscience et qu'on appelle le moi, il y a deux instances qui sont en quelque sorte opposées. Il y a ce qu'on appelle le soi, qui est l'ensemble des désirs, ou pour employer un mot plus vague, des pulsions, dont une grande partie est refoulée, dont une grande partie n'arrive que très mal à la conscience, parce que la société environnante ne nous permet pas de manifester ce genre de désir, sinon d'une façon très détournée. La société ou notre personnalité, notre moi tel qu'il s'est constitué. Et d'autre part, de l'autre côté, si vous voulez, il y a cette région de la personnalité qui contrôle le passage entre le soi et le moi. Cette région dirigeante, c'est ce qu'on appelle le surmoi. Eh bien, nous avons ici, par conséquent, une personnalité qui se divise en presque trois personnes. Une personnalité qui se divise en trois régions articulées l'une par rapport à l'autre. Et il est facile de montrer que ce qui s'exprime à l'intérieur de l'œuvre littéraire, ce n'est pas seulement le moi, que, au contraire, la littérature est un des moyens par excellence que le soi réussit à utiliser pour s'exprimer par l'intermédiaire d'un certain nombre de détours, pour ruser, si vous voulez, avec le surmoi. La difficulté, en général, c'est de savoir comment se constitue ce surmoi. Et la psychanalyse nous dit que le surmoi est un père idéalisé et que c'est dans la résolution du complexe d'Édipe que le jeune enfant, pour ne plus trop s'opposer à son père qui l'empêche de profiter de sa mère, le jeune enfant, renonçant à tuer papa, va préférer prendre papa comme modèle. Papa ou naturellement telle autre personnalité qui aura joué la même fonction dans le milieu de la petite enfance. Ainsi, cela peut être un oncle, un frère aîné, etc. Dans des cas simples, il est facile de reconnaître dans le surmoi d'un individu l'image plus ou moins magnifiée, idéalisée ou rendue plus cruelle du père de l'individu. Mais en général, lorsque nous arrivons à des écrivains, eh bien, ce sont des gens qui, justement, puisqu'ils ont dû dépenser une énergie surhumaine à s'exprimer dans leurs œuvres, eh bien justement, nous avons des individus qui ont une structure psychique extraordinairement complexe et donc qui ont des problèmes de personnalité et, pour dire ça avec un vocabulaire psychanalytique élémentaire, qui ont des problèmes de surmoi, qui ont un surmoi contradictoire. Au lieu d'avoir un seul surmoi, une seule image paternelle qui leur dit ce qu'il faut faire, ils se trouvent, si vous le voulez, partagés entre plusieurs dieux. Ils ont besoin de tout un système de dieux. Et il est facile de montrer que, par exemple, la naissance de la littérature en Grèce, et de ce que nous appelons la littérature, est liée étroitement à des problèmes de discussion entre des dieux. L'individu ne sachant plus à quel saint se vouer, ne sachant plus à quel dieu se vouer, il essaie de mettre de l'ordre dans l'Olympe ou dans le paradis et par conséquent d'organiser une mythologie qui lui convienne. Eh bien, en ce qui concerne la relation de Breton avec le groupe surréaliste, nous voyons que le groupe surréaliste va jouer dans la personnalité de Breton un rôle considérable. Il y a, si vous voulez, on peut dire, il y a chez Breton un surmoi qui s'incarne dans le groupe et dans un certain nombre de ses têtes. Et ceci est encore plus important, je crois, les contradictions fondamentales que Breton pressent à l'intérieur de la société qui l'entoure, contradictions fondamentales ou fêlures, hein, séparation de cet acquis culturel, de cette France, cette séparation s'exprime avant tout pour lui par la secousse de la guerre de 1914. Eh bien, les contradictions de cette société vont se traduire en quelque sorte à un niveau supérieur, à un niveau de moralité supérieur à l'intérieur même du groupe surréaliste. Alors, le groupe surréaliste est ainsi un moyen expérimental, si vous voulez. Le groupe surréaliste, pour le moi de Breton, est une sorte de laboratoire de sa propre mythologie. Tous les problèmes de la culture contemporaine vont s'incarner en quelque sorte dans ce qu'il considère, hein, toutes les valeurs de la culture contemporaine, dans ce qu'elles ont de meilleur à son avis, vont s'incarner dans ceux qui participent au groupe surréaliste. Et ainsi, il va avoir, si vous voulez, à sa disposition, au café en quelque sorte, les meilleurs représentants de ces problèmes, de ces, les meilleurs, ceux qui vont le mieux être capables d'exprimer ces différentes contradictions. Et ainsi, il va s'efforcer de faire vivre tout cela ensemble. La façon de faire vivre les personnalités appartenant du groupe au groupe surréaliste, cette façon de les faire vivre ensemble ne se distingue pas de la façon de faire vivre ensemble les différentes valeurs contradictoires qu'il reçoit de sa culture et de son éducation. Alors, nous allons ainsi essayer de suivre l'œuvre et la personnalité de Breton à travers ses contradictions. Nous allons suivre donc la personnalité de Breton au long de ses écrits, mais nous allons la suivre en particulier dans ses déchirements. Nous allons suivre sa personnalité dans la façon, hein, dans la façon dont elle se démultiplie et dont elle s'organise en plusieurs personnalités qui réussissent à dialoguer, à parler autour d'une table. Ainsi, vous voyez, l'œuvre, si on cherche à savoir qu'est-ce qui est l'expression de la personnalité d'Éluard. Réponse, l'œuvre d'Éluard. Si on cherche à savoir qu'est-ce qui est l'expression de la personnalité de Breton, c'est l'œuvre de Breton, mais en n'oubliant pas que l'existence du groupe surréaliste est aussi l'œuvre de Breton. Mais en n'oubliant pas non plus que le groupe surréaliste n'est pas seulement l'expression de la personnalité de Breton, mais qu'il fait partie de la personnalité de Breton. Et que par conséquent, les choses s'échangent. D'une part, le groupe surréaliste, l'existence même du groupe surréaliste est l'expression de la personnalité de Breton, mais ce que nous appelons l'œuvre de Breton est en partie au moins l'expression de cette personnalité complexe dans laquelle nous avons André Breton et le groupe surréaliste tel qu'il subsiste en se transformant au cours des années. Et c'est pourquoi, dans cette promenade à travers l'œuvre de Breton, je ne parlerait pas spécialement ici de certaines de ses œuvres les plus importantes que j'étudierais, alors plus spécialement dans un séminaire, je veux parler des manifestes du surréalisme. Je ne serai obligé, évidemment, de mentionner de temps en temps les manifestes du surréalisme, mais je ne consacrerai pas de séance spéciale à leur étude. Je prendrai, si vous voulez, à l'intérieur de ce cours, les manifestes du surréalisme comme expression particulière, expression spéciale de la liaison breton-surréalisme pour me concentrer sur les œuvres signées par Breton ou Breton et une ou deux autres personnes. Eh bien, maintenant, avant d'entrer dans l'œuvre, dans ce qu'on peut considérer comme l'œuvre même de Breton, je veux, si vous voulez, à l'entrée, à l'orée de cette forêt, dresser une figure. Une figure qui a joué véritablement un rôle mythique à l'intérieur du groupe surréaliste. C'est une figure de grand frère. C'est le grand frère de Breton. Et qui a joué un rôle immense à l'intérieur du groupe surréaliste, mais comme grand frère de Breton, parce que Breton est le seul qui l'ait connu. Il s'agit d'un jeune homme qui s'est suicidé avant même que le surréalisme ne commence. Et c'est la nouvelle du suicide de ce jeune homme qui a fait que la revue Littérature dont s'occupait Breton a viré, et au lieu d'être une revue de littérature d'avant-garde un peu comme les autres, va devenir l'organe en France du mouvement Dada. Un mouvement beaucoup plus négateur, beaucoup plus violent que ce qu'il y avait eu auparavant. Il s'agit naturellement, pour ceux qui sont un peu au courant de l'histoire du surréalisme, il s'agit évidemment de la figure de Jacques Vacher. Breton a répété tout au long de sa vie que la rencontre de Jacques Vacher avait été l'événement décisif de sa vie. Et l'on peut dire que Jacques Vacher, qui va lui servir de grand frère à l'intérieur du groupe surréaliste, car il va publier les lettres qu'il a reçues de Jacques Vacher avec une présentation, et c'est à partir de là que la photographie de Vacher, si vous voulez, va se trouver punaisée au-dessus du bureau de tout jeune novice surréaliste, eh bien, Breton rencontre Vacher au milieu de la guerre. Et cette rencontre va être pour lui décisive. On peut dire que Vacher, pour lui, est l'incarnation même de cette secousse que la guerre de 1914 est pour le monde occidental. Le surréalisme, et avant lui Dada, nous apparaît aujourd'hui comme tout à fait caractéristique de l'après-guerre de 1914. Il est très intéressant de comparer les deux après-guerres. L'après-guerre de 1914, ce qui s'est passé en 1919-1920, le mouvement Dada, et d'autre part, l'après-guerre de 1945, qui, en France, a été l'existentialisme, ce qu'on appelait à l'époque l'école de l'absurde. Eh bien, ces deux moments ont évidemment un certain nombre de points communs. Il y a de chaque côté ce qu'on peut appeler un certain nihilisme, un dégoût pour un certain nombre de mensonges des parents. Dans les deux cas, il y a une révolte contre les parents dont les mensonges nous ont valu tous ces massacres. Mais l'atmosphère, la couleur de ces deux après-guerres est tout à fait différente. Les titres des livres existentialistes sont des titres noirs. Ce sont le livre de Sartre publié avant la guerre, mais qui évidemment a sa grande carrière après la guerre est tout à fait caractéristique, c'est La nausée. Et puis nous avons Huis clos, Le mur, etc. Toute cette tonalité des œuvres de Sartre, des œuvres de Camus, etc. Toute cette tonalité sombre, morose. Le monde de l'après-guerre de 1945 n'est pas drôle du tout. C'est, on a le sentiment de vivre dans une sorte de terrain vague. Le sentiment n'est donc pas du tout le même que celui qui régnait en 1919-1920. Les œuvres des écrivains dada qui prétendaient mettre tout à feu et à sang sont des œuvres, ont des titres qui sont tout à fait réjouissants. Feu de joie, la grande gaieté, le grand jeu, etc. C'est merveilleux. On détruit, mais on détruit avec une allégresse dont les gens de 1945-1946 auront tout à fait la nostalgie. La secousse de la guerre de 1914 n'apparaîtra en 1945 que le début d'une fissure qui sera allée en s'augmentant considérablement, et le spectacle du monde après 1945 sera incomparablement plus bouleversé qu'après 1919. Après 1919, il y avait un certain nombre de fissures, mais très peu de gens s'en rendaient compte, et ceux qui s'en rendaient compte étaient émerveillés à l'idée qu'ils allaient pouvoir casser quelques vieilles façades et que ça donnerait de l'air. Tandis qu'après 1945, il y avait le sentiment que toutes les vieilles façades étaient détruites. Elles se sont naturellement reconstituées doucement, peu à peu. Elles ont eu tout à fait le temps. Eh bien, Breton est quelqu'un qui, évidemment, a eu le sentiment que la guerre de 1914 représentait un éclatement de l'ancienne culture, si vous voulez, une rupture à l'intérieur de l'ensemble des traditions françaises.